Et bonjour à tous. Merci de cette jeunesse de nous accueillir. Ça nous réjouit beaucoup, voilà, de prendre le temps de partager avec vous cette expérience Soul Games. Et je voudrais rebondir sur ce que Driss nous a présenté avec un certain nombre d'images en noir et blanc. Voilà. Et moi, je vais essayer de mettre en couleur ces images pour vous montrer que tout ça n'est pas terminé et qu'il y a une réalité aujourd'hui vivante et un avenir à cette pastorale du sport. Je reprendrai le dernier, vraiment que le sport est un lieu extraordinaire d'évangélisation. Alors, j'ai commencé avec cette photo-là parce que je l'aime beaucoup. Elle a l'air de rien comme ça. Hein. Vous avez bientôt le drapeau français, drapeau du Vatican et le drapeau olympique. Et ça, on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière hein, pour rassembler ces trois drapeaux. Cette photo, elle a été prise à la messe d'ouverture des Jeux Olympiques dans l'église de la Madeleine. Voilà. Alors, très honnêtement, c'est un an de travail hein, pour réussir à réunir ces trois drapeaux. Et pour moi, ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup de ce qu'on a essayé de faire, de rassembler ces mondes qui, bien sûr, historiquement, ont des liens et qui, parfois, ont des liens fragilisés. Et donc, voilà, c'est une joie de vous partager cette photo qui veut dire beaucoup de ce qu'on a essayé de porter pendant ces Jeux Olympiques en France. Alors, je connais un certain nombre d'entre vous, donc peut-être certains connaissent déjà l'histoire de ce projet Holy Games, mais je voulais y revenir un petit peu. Ce projet, il a été incarné d'abord par deux personnes, François Morinière et Arnaud Boutéon, deux laïcs, voilà, qui sont des passionnés de sport, qui ont compris d'emblée que le sport était un enjeu extraordinaire. Ce sont des évangélisateurs. Ils ont souhaité, en s'adressant aux évêques de France, lancer un projet. Voilà, le pays reçoit les JO, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc, à l'automne 21, ils ont rencontré avec Mgr Marcet le COJO, Paris 2024, en disant, ben voilà, on est l'Église, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner les Jeux de Paris? Il y a trois choses qui sont ressorties. Paris 2024 a tout de suite dit, bah, en fait, dans notre cahier des charges reçu du CIO, il y a un truc qui est obligatoire, c'est qu'on doit monter une aumônerie, un centre multiconfessionnel, et ça, on ne sait pas très bien faire. Donc, on va avoir besoin de vous, l'Église. Donc là, tout de suite, on s'est dit, c'est bien, on est attendu dans cet événement JO. La deuxième chose, c'est que Paris 2024, j'ai dit, on a besoin de vous pour nous aider à mobiliser, vous, l'Église, vous savez mobiliser les jeunes. Et puis, on a besoin de vous aussi pour que cet événement soit une fête, y compris pour les plus vulnérables. Voilà, ça a été les trois messages clés qu'on a retenus. Et ce projet Holy Games a commencé en septembre 22. On a monté une équipe pour porter ce projet qui s'appelait au départ Catholympique. Moi, je suis arrivée, ce projet s'appelait Catholympique. Voilà, j'ai trouvé ça un peu surprenant parce que justement, moi, je ne voulais pas qu'on fasse quelque chose pour les cathos, mais qu'on fasse quelque chose d'ouvert au monde. Le projet au début, on l'appelait aussi Église catholique et Jeux olympiques. Et puis très vite, on s'est rendu compte que Jeux olympiques, c'est une marque et qu'on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc si on voulait, en tant qu'Église, être présent dans cet événement Jeux olympiques, il fallait inventer autrement les choses. Voilà, d'où l'idée de créer une marque. Alors là, on vient un peu surprendre, hein, parce que l'Église, l'Église, on pourrait dire qu'elle est une marque en soi. Moi, j'aime beaucoup regarder l'Église avec un regard marketing, c'est ma formation. Je trouve que c'est extraordinaire. On a une Église dans chaque village. On a une visibilité extraordinaire, donc en marketing, on est très fort. Mais c'est vrai que quand on parle de pastoral, pour reprendre ce que tu disais Philippe, c'est pas très sexy le mot pastoral. Voilà. Donc on a créé une marque et je me dis, ben voilà, c'est quelque chose aussi une réflexion que je voulais partager avec vous. Ben peut-être aussi que l'Église aujourd'hui, elle a intérêt aussi à aller dans ces voies-là. Ben pourquoi pas utiliser une marque pour parler au monde? On a besoin de communiquer, on a besoin de faire rêver, on a besoin de toucher les jeunes. Voilà, donc cette marque, elle a été créée en mars 23, et je l'avais présenté avec Mgr Gobillard à l'Assemblée plénière des évêques à ce moment-là. Ce qui nous a nourris dès le départ dans le projet, ça a été d'abord une des rencontres organisées à Rome. Je pense que c'est là qu'on s'est rencontrés, Père Pascal, non, peut-être que vous n'étiez pas là, mais une partie peut-être d'entre vous, certains d'entre vous étaient là, au congrès organisé par le Vatican, Sport for All. Et c'est là qu'on a rencontré Thomas Bach, c'est là qu'on a rencontré le président du comité paralympique. Et qu'on s'est dit qu'il y avait vraiment des ponts, qu'il y avait des liens intéressants à creuser pour porter un projet pendant les Jeux Olympiques. Donc, de manière très concrète, Holy Games a été créé en tant qu'association, avec une marque, une association au départ portée par le diocèse de Paris, avec un évêque, vous voyez, très sportif, Mgr Marcet, qui était président de cette association, petite structure, voilà, une structure agile qui nous a permis de développer un certain nombre de projets. Et une association également soutenue par la Conférence des évêques qui a contribué un petit peu aussi financièrement au projet, et puis d'autres diocèses, notamment les diocèses d'Île-de-France qui étaient particulièrement impactés par les JO, donc diocèse de Versailles, diocèse de Nanterre. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a d'abord, on s'est plongé dans l'histoire. Merci Idriss de nous avoir rappelé. On s'est plongé dans l'histoire de ces liens entre l'Église et le sport, dans le magistère, dans ce que les papes ont pu nous dire sur le sport. Et on s'est arrêté sur cette phrase qui vient du document que vous avez cité, Donner le meilleur de soi-même, paru en 2018, avec cette phrase du pape François. Le sport peut être un instrument de rencontre, de formation, de mission et de sanctification. Et cette phrase, elle a été clé pour nous, ça a été notre feuille de route. Moi, quand je suis arrivée sur ce projet, la feuille de route, c'était créer un projet, Église et sport, pour les JO. Et voilà, pour m'appuyer sur quelque chose de concret, on a pris cette phrase du pape François qui nous a beaucoup inspirés, vous voyez, avec quatre axes qui se sont déployés à partir de cette seule phrase. La rencontre, on s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire la rencontre à travers le sport? Bah, c'est tout l'axe solidarité qu'on a développé en se disant, bah, voilà, le sport doit être un lieu de rencontre et d'accompagnement aussi des plus fragiles, personnes en précarité, personnes en situation de handicap. Notre deuxième axe, formation, éducation, culture, voilà, vous verrez un petit peu des exemples concrets de ce qu'on a essayé de proposer. Convaincu, bien sûr, que le sport est un lieu incroyable d'éducation, de déploiement de la personne, mais aussi de cohésion sociale. Et puis, bien sûr, le sport lieu de mission, on n'a pas changé les mots du pape François, voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pendant les Jeux Olympiques, être un lieu de mission? Et puis bien sûr, le volet spirituel, bon, c'est quand même notre cœur de métier quand on est l'Église, donc là-dessus on n'a rien inventé, mais Driss parlait de certains éléments qu'on va partager sur la présence de l'Église du coup pendant les Jeux Olympiques. Donc en fait, pour résumer, Holy Games, pendant les Jeux, ça a été un peu un laboratoire. Voilà, on a eu plus de 40 projets, principalement en Île-de-France, mais aussi, vous voyez qu'il y avait quand même 33 diocèses mobilisés, ça veut dire 33 diocèses qui avaient nommé un délégué pour les Jeux Olympiques. Donc il y a eu une quarantaine de projets et pour moi ça a été un laboratoire incroyable et c'est ça que je voulais vous présenter. On a testé plein de choses et on va voir ensemble ce qui a marché et ce qui peut être point d'appui pour les diocèses qui veulent se lancer et quels sont les ponts qu'on a réussi à tisser, quels sont les fils à continuer à tirer. On a eu aussi la chance, grâce à cette rencontre initiale au Vatican, ben voilà, d'avoir des liens constants avec le Vatican, ce qui fait que tous les événements organisés par Holy Games ont été labellisés. Les événements institutionnels étaient labellisés par le dicastère culture et éducation, donc messe d'ouverture des JO, rencontres interreligieuses, messe de clôture, aumônerie. Et tous les événements sportifs, parce qu'on a fait du sport, hein, le but aussi c'était de montrer que l'Église aime le sport, comme vous le rappelez, tous les événements sportifs ont été labellisés Atletica Vaticana, qui est l'Église, pardon, qui est l'équipe de sport du Vatican. Donc à travers ces quatre axes de travail, alors je ne vais pas tout dérouler, je voulais voilà, reprendre chacun de ces axes et peut-être mettre le doigt sur certains événements, certains projets qui ont vraiment bien fonctionné. Alors vous voyez, c'est le rose, hein, c'est le volet solidarité. On a déjà ce qui nous a touchés, c'est que grâce au sport, ben, on n'a pas de difficulté à trouver des bénévoles, des gens motivés. Donc quand on monte un projet en termes de solidarité et de sport, il y a afflux de volontaires, il y a afflux de serviteurs. Vous voyez, on a eu plus de 1000 personnes qui se sont proposées pour venir nous accompagner. On a fait trois choses que je retiens principalement. C'est que pendant les JO, on avait un QG solidaire au cœur de Paris, dans le 12e arrondissement, pour ceux qui connaissent à peu près de Nation. On avait un lieu extraordinaire qui nous a été mis à disposition, la Fondation Eugène Napoléon. Et on a accueilli pendant tous les jours des JO des associations liées à la précarité. Parce que nous, au Holy Games, on ne sait pas faire, hein, donc on a travaillé avec des associations qui savent faire, bien sûr le Secours catholique, Saint-Vincent-de-Paul, les captifs. Et tous les jours, on accueillait des personnes en précarité qui étaient bien sûr restées à Paris, qui n'avaient pas fui la capitale comme la plupart des Parisiens. Et on a fait du sport, on a prié, on a vécu des temps fraternels et on les a emmenés dans les stades. Ça a été une expérience extraordinaire. Personnellement, j'ai eu cette chance incroyable d'emmener une personne de la rue qui dort au pied de l'église de la Madeleine où je travaillais, de l'emmener à la finale du 100 mètres, puisqu'on avait pu avoir un certain nombre de places par la Direction générale de la cohésion sociale, et puis un certain nombre de places qu'on avait achetées grâce à la Fondation Notre-Dame aussi. Donc on a emmené plus de 1200 personnes dans les stades. Imaginez le rêve quand même, hein. Et il y avait des prix accessibles, hein. On avait acheté que des billets à 24 euros, plus tous ces billets qui nous avaient été offerts. Ce sont des souvenirs incroyables et j'y reviendrai tout à l'heure pour dire qu'en fait, ça, c'est des choses qui sont assez faciles à poursuivre aujourd'hui. Pendant les Jeux paralympiques, et vous en avez brièvement parlé, Monseigneur, tout à l'heure, les Jeux paralympiques ont été le point d'orgue, hein, de ces Jeux. Personnellement, ayant vécu tous les Jeux à Paris, moi, j'ose dire que les Jeux ont été pour moi un avant-goût du ciel avec toutes les nations rassemblées. dans la paix, dans la fraternité. J'aime bien relire les textes que nous offre la Bible sur ces nations rassemblées. Et je trouve que les Jeux nous ont offert un avant-goût de, je crois, de ce qu'on vivra là-haut. Mais les Jeux paralympiques ont été un sommet de la dignité humaine, de ce que l'homme est capable de beau et de bien. Et ces Jeux paralympiques nous ont permis de, pendant les 12 jours des Jeux paralympiques, de vivre 12 jours extraordinaires. On avait monté ce qu'on appelait une route extraordinaire. Cette route extraordinaire, pendant les 12 jours des paras, elle se déployait dans une ville d'Île-de-France. On était accueillis par une paroisse, une association liée au handicap. Et on a vécu ces journées, on a pu accueillir 1200 personnes, là encore en les emmenant dans les stades, avec parfois nos évêques qui venaient avec nous aussi pour vivre ces belles journées. Et ça encore, on se dit que c'est des choses qui sont faciles à refaire. Voilà. Faire du sport avec des personnes en situation de handicap et vivre avec elles les Jeux. Le deuxième volet, c'est le volet éducatif. Je vais aller rapidement parce qu'on a fait beaucoup de choses. Voilà, comme je disais, c'était un laboratoire. On a fait des concerts, on a fait des comédies musicales, pièces de théâtre. Je voudrais m'arrêter sur... pour le premier exemple qui est cité, c'est des livrets. On avait édité un livret avec Luxel et la FSCF qui avait pour but, qui était à destination des collégiens lycéens, qui avait pour but de mettre en parallèle les valeurs du sport et les vertus dans la foi chrétienne. Voilà, vous tous qui êtes habitués à travailler ces questions de sport et foi, il y a des liens bien sûr évidents. Donc le but, c'était de proposer des outils concrets à déployer auprès des jeunes. Et puis, oui, je pense que je vais m'arrêter sur ce volet éducatif pour vous parler peut-être d'autres volets qui peut-être vous surprendront plus. Le volet spirituel, alors voilà, là encore, a priori, rien de surprenant, on sait faire. Mais comme vous le disiez, Triste tout à l'heure, avoir une messe au début d'un événement sportif, ça se fait plus tellement. On a essayé de refaire des choses qui existaient déjà au XXe siècle, qui peut-être en France n'existent plus, ou occasionnellement, genre par exemple le 24 heures du Mans, il y a une messe pour une jurée. Voilà, donc on a proposé un certain nombre d'événements et on a été très touchés, très surpris par le bon accueil des institutions. Vous voyez la photo du milieu là, où à la messe d'ouverture des JO, il y avait trois ministres, il y avait Thomas Barr, il y avait les représentants de Paris 2024, la maire de Paris. Bon, à l'heure actuelle, on sait ce que c'est pour ces personnes-là que de venir au premier rang à une messe. On a eu une messe de clôture, on a eu une veillée extraordinaire, une veillée de bénédiction des athlètes. La veille de l'ouverture des Jeux. Et puis, il y a eu cette aumônerie. Et je voudrais revenir sur ce point-là, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je vous le disais, le Paris 2024, ça veut dire qu'il faut monter une aumônerie. On ne sait pas faire. Et bien, figurez-vous que nous non plus, on ne sait pas faire, en fait. Monter une aumônerie du sport, c'est pas si simple, parce qu'on n'a pas d'aumônier du sport. Et on avait eu cette expérience avec le père Jason, qui viendra, je crois, demain. Lors des championnats du monde de para-athlétisme, où une aumônerie a été montée par les chrétiens évangéliques. Ils nous ont appelés en nous disant est-ce qu'il y aurait un aumônier catholique disponible pour la semaine des championnats d'athlètes. Ben non, en fait, on n'a pas d'aumônier du sport. Donc vous voyez, en fait, c'était un super challenge pour nous, ces JO, c'est de se dire mais en fait, qui sont nos aumôniers du sport? Alors, bien sûr que Monseigneur parlait d'ailleurs tout à l'heure d'avoir confirmé une para-athlète. Donc, bien sûr, les prêtres sont habitués à accompagner les sportifs, comme ils accompagnent un peu chacun. Mais on n'a pas d'aumônier du sport. Et donc, ces JO ont été l'occasion, on y reviendra demain, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais il faut s'interroger et se dire, mais voilà, comment on va former des aumôniers du sport et on y reviendra. Le but, c'est que ça ne s'arrête pas là, hein, que les JO n'étaient pas une parenthèse. En tout cas, ce que je voulais dire sur cette aumônerie, la photo, je crois, dit quelque chose. Si vous voyez dans le détail, on voit le rabbin qui est debout dans un des anneaux. On voit au milieu Najat, qui est la représentante de l'islam. Il y avait des hindous, les bouddhistes. Ça a été une expérience absolument extraordinaire, interreligieuse. Et le sport, comme vous le savez, pour ceux qui essaient de mettre en place la pastorale du sport, c'est un lieu incroyable de rencontre interreligieuse. Et ça, on l'a vécu dans le village et on a voulu le montrer au monde entier. Et on a, à la demande de Thomas Barr, organisé une rencontre interreligieuse sur le parvis de Notre-Dame. Ça a été un temps très fort au milieu des Jeux Olympiques. Quand on avait rencontré Thomas Barr, il nous avait dit, on lui avait dit, on va faire une messe d'ouverture des JO. Il avait dit, c'est très bien, mais il faudrait faire quelque chose à Notre-Dame. En 1924, il y a eu quelque chose à Notre-Dame, à Paris 1924. Donc on lui a dit, mais Notre-Dame ne sera pas rouverte. Et il nous a lancé ce défi d'organiser quelque chose à Notre-Dame, d'interreligieux. Et on a fait cette rencontre interreligieuse sur le parvis pour témoigner de ce qui se vivait dans le village. où chrétiens, juifs, musulmans étaient amis, vraiment amis. On est encore amis, on a encore un groupe WhatsApp, on a encore des projets ensemble. Et ça a été, voilà, dans un monde bien bouleversé, une vraie joie de le partager au monde entier. Le volet missionnaire, on a voulu s'appuyer pour être missionnaire pendant ces Jeux sur les jeunes et sur les mouvements missionnaires. Donc on a fait appel à un certain nombre de mouvements qui ont répondu à l'appel, l'Emmanuel, le Chemin Neuf, la communauté Saint-Martin, les Dominicains, les Jésuites, enfin, je ne vais pas tous les énumérer, qui ont monté des routes d'été pour mobiliser des jeunes. Alors je ne vous cache pas qu'on espérait avoir 2000 jeunes, on en a eu 500, mais on a eu 500 magnifiques jeunes. Donc on a été très heureux. Et notre but était d'animer les paroisses. C'est-à-dire que toute l'Île-de-France a été ciblée, le but étant d'être au plus proche soit des compétitions sportives. Voilà, vous avez une église devant laquelle les gens passaient pour aller au stade, ben, il se passe quelque chose, donc il faut qu'elle soit ouverte. Donc il y a des curés qui n'ont pas pris de vacances pour être présents, pour accueillir ces mouvements. Je les remercie parce que ce n'était pas si évident que ça, hein. Rappelez-vous, 10 jours avant les Jeux, les consignes c'était quitter Paris, surtout restez pas, il y en a qui sont restés. Ça a été des moments extraordinaires et moi vraiment je garde en tête des prêtres qui m'ont dit ça a transformé ma vie paroissiale. Parce qu'en fait, bah, du coup, on a installé une table de ping-pong maintenant dans la salle paroissiale, ou même certains au fond de l'église, pour ne pas les citer. On a rencontré des gens qu'on ne voit jamais, qui nous ont dit, ah tiens, l'église est ouverte, mais pourquoi vous êtes ouverte? Ça a été vraiment des moments de rencontre extraordinaires. On avait tout simplement nos t-shirts Holy Games avec une parole de Dieu dans le dos. Et j'ai été abordée, je pense, peut-être une dizaine de fois dans la rue, par des étrangers, par des Français, juste parce que j'avais une parole de Dieu, il y avait marqué Holy Games, il n'y avait rien besoin d'expliquer. Hein. Les gens nous disaient, mais en fait, l'église, elle est là, là, autour des gens, c'est incroyable. Et on n'a eu que des retours positifs, des gens nous disant, mais tiens, on ne s'y attendait pas, c'est génial que vous soyez là. Et ça répond à ce que vous disiez tout à l'heure, à cette soif qu'ont les sportifs, de soif spirituelle, et aussi soif des supporters, soif des gens qui étaient là. Et puis, un petit point sur le volet médiatique, parce que c'est toujours compliqué, l'Église et les médias. On est dans un contexte, voilà, où souvent l'Église, à juste raison, bien sûr, parfois est critiquée pour notamment tout ce contexte des abus dans lequel on était. On n'a eu que des retours positifs. Et vous voyez qu'il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de retombées, plus de 300 retombées presse, plus de. Moi, je mets 3 millions de téléspectateurs cumulés, c'est la réalité. Hein, c'est-à-dire qu'on a eu 8 événements retransmis, pas uniquement sur KTO, j'aime beaucoup KTO, mais aussi sur France Télévisions, sur CNews. Et moi, j'ai des gens qui m'ont dit, ah bah tiens, j'ai vu les t-shirts jaunes à la télé. Et ce qui a été fait, qui était intéressant, et j'en parle maintenant parce qu'il y aura un projet de Tour de France qu'on voudra partager avec vous, c'est que, comme beaucoup, j'imagine, pendant les JO, vous allumiez la télé le matin pour regarder. Et puis le dimanche matin, bah, les gens allumaient la télé, et puis là, ils tombaient sur une messe qui parlait des JO. Tiens, ça c'est étonnant quand même. Donc il y a eu un lien assez extraordinaire qui s'est fait entre ce qu'on pouvait proposer sur les antennes. Et qui faisait le lien avec ce que les gens étaient regardés, mais regarder du sport, bah tiens, comment est-ce que le sport vient résonner avec ce que je vis dans ma vie spirituelle? En termes de bilan, alors ça paraît un tout petit là, mais je voulais vous le partager. On a eu un retour très positif de sportifs de haut niveau qui sont venus nous voir sur le village, qui nous ont dit en fait ça a été un lieu ressource, où je savais enfin que j'avais des aumôniers que je pouvais aller voir. Peut-être que certains pourront témoigner de ce qui se vit, notamment à l'INSEP, on a eu des beaux retours là-dessus. Donc une vraie reconnaissance des sportifs de haut niveau et puis une reconnaissance toute particulière du CIO. Je dois dire que parfois ça a été un combat ce projet Holy Games. J'ose le dire, hein, Monseigneur, vous êtes là, ça a été aussi un combat dans l'Église parce que beaucoup nous disaient ça sert à rien, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller perdre du temps. Les JO c'est du sport, c'est de l'argent, l'Église n'a rien à faire là. Et on a eu des retours extrêmement positifs du monde du sport et du CIO. Et c'est presque ça qui nous a le plus encouragé aujourd'hui à continuer ce projet. Il est bon de voir que voilà, souvent, ce n'est pas forcément ceux auxquels on s'attend qui vont nous encourager à poursuivre sur nos voies. Alors c'est cette vidéo qui a été faite, voilà, vidéo bilan qu'on a présentée fin 2024 pour faire un petit peu ce bilan des JO, au moment où on s'est posé la question. Voilà, moi, ma mission s'arrêtait avec les Jeux Olympiques et dans les statuts de l'association Holy Games. Voilà, l'objet de l'association, c'était l'accompagnement des Jeux Olympiques. Donc on s'est interrogé et on a trouvé on avait cette envie, ce désir profond et je crois, cet appel à continuer ce projet. Et les évêques nous y ont encouragés. On a revu un petit peu notre structure et je vais vous dire aujourd'hui, voilà, ce qu'est Holy Games et en quoi ça continue, en quoi ça peut aussi vous impacter. J'aime bien, on a repris cette parole de Saint Jean, que ma joie demeure, parce que ça a été vraiment ce qu'on a vécu pendant les JO, une grande joie, une joie profonde. Et on s'est dit, il ne faut pas que cette joie s'arrête. On parle souvent de parenthèse quand on parle des JO, de parenthèse enchantée, etc. Moi, c'est une expression que j'aime pas beaucoup, parce qu'en fait, ce n'est pas une parenthèse. La joie qu'on a vécue, elle n'était pas feinte, elle n'était pas fausse, elle était vraie. Et je crois que le sport qui est incarné, on le vit dans son corps, c'est pas quelque chose qui s'efface, qui s'oublie. C'est pour ça qu'on a vraiment voilà, pensé qu'il était bon de continuer avec ce projet, avec quelques petites pépites aussi qui nous ont poussé à continuer. C'est que les Américains sont venus, des prêtres américains sont venus pendant une semaine, pendant les JO, pour voir ce qu'on faisait en vue de Los Angeles. On a reçu cette médaille des mains de Thomas Barr, médaille de Paris 2024 et médaille du CIO, en nous disant bah, ce que vous avez fait, en fait, c'était extraordinaire. Et puis voilà, on s'est dit que cette marque Holy Games, maintenant, elle disait quelque chose et que c'était dommage de la faire mourir. Et puis les évêques aussi ont souhaité intégrer la pastorale du sport lors de la réorganisation de la conférence des évêques dans un des nouveaux pôles. Donc voilà, pour nous, tout ça, c'était des signes qu'il fallait continuer cette mission. Donc aujourd'hui, Holy Games, alors je vous passerai, peut-être qu'on passera les documents, j'imagine, aux participants. Vous pourrez lire la lettre que les évêques d'Île-de-France avaient écrite à l'issue de ces Jeux, pour nous encourager, pour dire voilà en quoi le sport est vraiment un lieu d'évangélisation, un tiers-lieu pacifique qu'il faut habiter. Donc aujourd'hui, Holy Games, on a changé notre structure. Et je vous disais tout à l'heure que c'était un évêque, Monseigneur Massé, qui était président pendant les Jeux. Aujourd'hui, c'est François Morinière, qui est un laïc, qui était dirigeant du journal L'Équipe, qui était au comité d'audit de Paris 2024, qui est à la Ligue de foot, donc un chrétien engagé dans le monde du sport. On a la chance d'avoir un président d'honneur qui est Tanguy de la Forêt. Tanguy de la Forêt qui a fait six Jeux paralympiques, qui a terminé sa carrière en étant porte-drapeau de l'équipe de France. Voilà, une très belle personne. Je vous raconterai son histoire dans les pauses si vous voulez. Et puis on a souhaité, c'est vraiment important pour nous, ça fait écho à ce que vous disiez, Idriss, tout à l'heure, on a souhaité garder ce lien fort avec la CEF. Voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de construire. Voilà, voir quel est ce lien avec la CEF, mais c'est important pour nous de se dire si Holy Games continue encore 20 ans, que ça ne devienne pas une association détachée de l'Église qui perd son origine, comme on l'a vu souvent dans des patronages qui sont devenus presque trop laïcs aujourd'hui. Donc, Monseigneur Godbillard est membre de droit de l'association. Voilà, ce qui nous permet d'avoir ce lien fort avec l'Église, avec la conférence des évêques. Et puis, on a voilà, étoffé l'équipe. Avec un certain nombre de personnes laïques et religieuses. Alors, aujourd'hui, notre vision, c'est se dire que le sport, c'est beau et c'est bien. Le pape Jean-Paul II disait que le sport est un don de Dieu. Et comme vous le disiez, Monseigneur, tout à l'heure, le sport parfois peut être dévoyé, peut être abîmé. Et on se dit que voilà, notre rôle, il est de donner au sport un éclat nouveau, de lui redonner ses lettres de noblesse. En fait, le sport, il a des valeurs magnifiques qui sont parfois abîmées. Donc, qu'est-ce que l'Église peut donner? Quel regard elle peut poser sur le sport? Comment elle peut l'accompagner et l'encourager? Donc, on a identifié trois missions. La première, c'est d'accompagner spirituellement ce monde du sport. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il fallait des aumôniers du sport. Donc, voilà, comment on accompagne cette réalité? Comment on va accompagner peut-être des aumôneries, le déploiement d'aumôneries, on y reviendra tout à l'heure. Première mission, donc accompagner spirituellement le monde du sport. Notre deuxième mission, c'est de promouvoir des événements sport et foi, voilà, comme lieu d'évangélisation, comme lieu de rencontre du monde entre le sport et l'Église. Et la troisième mission, c'est d'annoncer l'Évangile dans les grands événements, comme on l'a fait aux Jeux Olympiques, autour de France, dans les prochains Jeux qui viendront chez nous. Et pourquoi pas des événements comme l'UTMB, vous savez, ce trail incroyable au Mont-Blanc, j'y reviendrai tout à l'heure. Avant de nous relancer, donc début 2025, de relancer l'association, on a eu cette chance extraordinaire, avec certains qui sont là, d'aller à Rome, au Jubilé des sportifs. Ça a été pour nous un moment très fort, à la fois un moment de relecture de ces 2 années d'expérience et de projection vers l'avenir. Ça a été un moment très fort parce que, vous voyez, cette croix olympique qui est portée ici par une personne que vous reconnaissez peut-être, qui est Thomas Barr. Cette croix olympique, on l'avait reçue des JO de Londres, elle était allée aux JO de Rio, on l'avait reçue. Et moi, je me souviendrai toujours de ce moment où, avec le père Jason, qui n'était pas encore prêtre d'ailleurs, c'était quelques jours avant son ordination, on est allé installer cette croix olympique sur le village, dans l'aumônerie. C'était quelque chose pour nous de très fort, d'aller planter cette croix, au cœur du village des athlètes. Et cette croix, à l'occasion du jubilé, on l'a envoyée à Rome. Et ce qui a été très fort pour nous, c'est que c'est Thomas Barr, le président du CIO lui-même, qui a passé la Porte Sainte avec cette croix olympique. C'est quand même extraordinaire, hein, de se dire que oui, il y a des liens très forts entre l'Église et le sport, et que l'instance la plus haute du sport, le CIO, elle est capable d'être portée par des personnes pour qui l'accompagnement spirituel est fondamental. Hein, et Thomas Barr est très respectueux des autres religions, comme je disais tout à l'heure. Voilà, qui vous avait demandé un événement interreligieux, là, bien sûr, il vient en tant que chrétien, mais je crois que ce qu'il a réussi à faire avec les Jeux, de garder cette dimension spirituelle, hein, nous laisse beaucoup, permet de beaucoup réfléchir sur ce qu'on vit en France. Donc voilà, juste pour terminer, les grands projets pour cette année, ces années à venir, je disais le premier volet, c'est installer durablement l'accompagnement spirituel du monde du sport. La première étape, elle va, je l'espère, voir le jour. C'est en très bonne voie. Voilà, ce serait l'ouverture d'une aumônerie à l'INSEP, qui est donc le lieu de formation de tous les sportifs de haut niveau en France. Voilà, c'est 3 ans de discussion, de travail, et ce sera, si ça a bien lieu, un très bel aboutissement et un point de départ. Pourquoi pas imaginer une aumônerie à Marcoussis pour le rugby, à Clairefontaine pour le foot. On va inaugurer une chapelle des sportifs. À Paris, Porte de Saint-Cloud. Alors, il y avait une chapelle des sportifs pendant les JO à la Madeleine, mais qui a été fermée à la fin des Jeux. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Porte de Saint-Cloud à Paris, c'est le lieu. Vous êtes à 100 mètres du Parc des Princes, à 500 mètres de Roland-Garros, à 200 mètres du Stade Jean-Bouin, du Stade Pierre-de-Coubertin, du Stade Français. C'est vraiment le lieu où tous les sportifs passent, que ce soit les supporters ou les sportifs de haut niveau. Et on a un curé super motivé qui va accueillir cette chapelle des sportifs et qui va être aussi le point de départ pour nous d'un projet de solidarité aussi. Qu'on va pouvoir déployer. Deuxième axe de travail pour nous, c'est de promouvoir des événements sport et foi. Depuis les JO, à la veille des JO, on avait commencé à organiser des événements sportifs. Ouais, notre but, c'était tout simplement de mobiliser des gens, des sportifs, des gens qui aiment le sport. Et on a inauguré les courses à pied. En fait, en réfléchissant, en se disant comment faire rencontrer l'Église et le sport, on a choisi la course en se disant la course à pied, c'est dans la rue. C'est ouvert à tous, c'est pas dans un stade fermé. C'est ouvert à tous. C'est une église qui est joyeuse, qui est dans la rue, qui est à la rencontre du monde. Et donc, on a organisé cette course des églises à Paris, 3 années de suite, le Paris Église Tour. On était 600 la première année, 1200 la deuxième, 3200 cette année. Alors, je ne sais pas jusqu'où on va aller. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas une course pour les cathos, c'est une course pour tous. L'église à la rencontre du monde, avec beaucoup de personnes en situation de handicap, de fragilité, avec des gens qui viennent là pour la perte parce que c'est des accros du chrono, voilà, avec tout type de coureurs. Et voilà, notre but, c'est de faire découvrir aussi nos églises. On partait de Notre-Dame de Paris jusqu'à la Madeleine. Et cette course, cette année, on va essayer de la déployer à Nantes, à Marseille. Et puis, j'ai vu qu'il y avait déjà des petites idées, peut-être à Clermont ou ailleurs. Voilà, en fait, c'est un lieu, c'est un événement sportif extraordinaire où on peut greffer plein de choses. Voilà. Ben, bien sûr, il y a la messe à la fin, hein. Il peut y avoir une bénédiction, on peut porter des intentions de prière, il y a plein de choses à imaginer. On va accompagner aussi des trails spirituels qui se déploient, notamment là au Mont-Saint-Michel, un trail qui va bientôt avoir lieu. Et puis, on accompagne aussi des événements qui existent depuis de nombreuses années. Voilà, Foot for God, la Pater Cup, le Challenge des cathédrales. Voilà, notre but, c'est de les aider à se faire connaître, de faire venir parfois aussi des sportifs de haut niveau qui viennent témoigner de leur foi. Voilà, donc faire ce lien grâce à des événements vraiment incarnés entre le sport et la foi. Et le troisième volet, c'est comment l'Église est présente dans les grands événements internationaux. Alors, il y a eu cette expérience des JO. On a la chance d'avoir les Jeux qui reviennent très bientôt. On a notre première réunion la semaine prochaine pour Alpes 2030 avec les 4 vicaires généraux concernés par les Jeux d'hiver. Mais pas que, on a une vraie intuition sur le Tour de France, voilà, qui parcourt tout notre territoire. Et on se dit, le Tour de France, c'est un lieu incroyable d'évangélisation, de rencontre. Si vous regardez un peu à la télé, on voit toutes nos églises. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que nos églises, elles soient pas vues uniquement comme des bâtiments de pierre, mais comme des lieux vivants, des lieux, voilà, de joie, des lieux d'annonce de l'Évangile. Et puis, je parlais de l'UTMB tout à l'heure. L'UTMB, c'est donc un des plus grands trails. Il y a, je crois, il y a 20 000 demandes pour participer à cet événement. Et il arrive devant l'église de Chamonix. Et voilà, j'ai eu un retour comme ça l'autre jour d'un participant qui m'a dit, ben, l'église était archi-bondée, mais bon, il n'y avait personne pour nous accueillir. Le curé n'a même pas fait mention de l'événement, alors que l'église était pleine de sportifs en short. Et on s'est dit, ben voilà, en fait, comment est-ce qu'on peut, l'occasion de ces événements-là, ben, être présent sur le parvis, accueillir, parler, annoncer le Christ. Voilà, il y a plein d'événements comme ça dans nos régions qui peuvent être des événements missionnaires extraordinaires. Voilà, et puis nous, ce qui nous pousse aussi à continuer, c'est que Los Angeles continue à échanger avec eux. On a été appelé même par une équipe américaine qui nous dit, ben, il y a la Coupe du Monde de foot qui arrive aux États-Unis, on voudrait faire Holy Games pendant la Coupe du Monde de foot. On a même été contacté par Brisbane, c'est 2032, c'est quand même loin. Donc voilà, il y a quelque chose qui commence à bouger et qui nous réjouit. Voilà, on est tout petit, hein, mais avec l'aide du Seigneur, avec l'espérance et avec la foi, on arrive à de grandes choses. Voilà, bah juste pour terminer, vous dire, voilà, Holy Games, donc c'est une marque qui est à disposition des diocèses pour accompagner des projets sport et foi. Cette image me plaît beaucoup, parce que vous voyez, c'est un participant du Paris Games Tour qui n'a pas la foi, et qu'on a rencontré à l'occasion d'une séance où on tractait à une course dans Paris. Et il m'a dit, mais moi, c'est mon anniversaire le jour du Paris Games Tour. Donc je viendrai. Voilà. Et il a, vous voyez la joie qu'il avait à être là avec nous, à rencontrer l'Église. Je pense qu'il n'avait jamais eu l'occasion de rentrer dans une église. Et Teddy, c'est son prénom. Voilà, ça fait partie de toutes ces rencontres extraordinaires qu'on fait sur les terrains de sport en annonçant l'Évangile. Voilà, merci beaucoup de votre attention.